Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
En 2011, Regency Enterprise, en collaboration avec Regency Pictures and Strike Entertainment, on fait sortir un film de science-fiction intitulé en français Time Out. Dans ce film, le temps est la nouvelle unité monétaire mondiale. Depuis que l'être humain a été modifié génétiquement, plus personne ne vieillit après ses 25 ans. Maintenant, quand tu atteins l'âge de 25 ans, le reste de ton temps est utilisé pour payer tes factures, acheter à manger, etc. On peut gagner du temps soit en travaillant, soit en prenant le temps de quelqu'un d'autre ou par le jeu. Alors bien que ce soit le produit de l'imagination de plusieurs individus, je pense que ce film, cette production met en évidence de manière brillante le fait que le temps soit en réalité notre plus précieux bien. Lorsque nous n'avons plus de temps, en réalité nous sommes morts. Ce sont les Américains qui ont rendu populaire cette citation « Time is money ». Traduite en français, ça donne « Le temps, c'est de l'argent ». William Penn, un homme politique et réformateur religieux aux États-Unis dans les années 1700, a dit ceci, et je cite, « Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le moins bien. » Fin de citation. De manière générale, je me suis rendu compte que personne n'aime perdre son temps. Et je pense que l'une des formes de l'expression de respect que vous pouvez avoir en faveur de quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un, c'est le respect de son temps. C'est pour ça que j'ai énormément de mal avec les gens qui, quoi qu'il arrive, sont en retard à un rendez-vous, au culte. Vous savez que quoi qu'il arrive, ils ne seront pas à l'heure. Pour moi, c'est une forme d'irrespect parce que le temps est quelque chose qu'on ne retrouve pas. Si personne n'aime perdre son temps, je crois en réalité que ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, très peu de personnes aiment ou savent attendre. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une vision. Tu peux aller en mineur. Je me suis retrouvé dans une vision où c'est comme si j'étais dans l'espace, hein, parce que ça ressemblait aux photos que je vois de l'univers, ce que j'ai vu en science, et j'ai entendu une voix qui s'est faite entendre et qui a dit « Dieu se voit Dieu et il est Dieu ». Et lorsque cette voix s'est faite entendre, l'esprit qui me parlait m'a fait remarquer le pouvoir de la vision. Que, en me parlant à moi, que je ne pouvais pas devenir ce que je ne me voyais pas être. Et qu'en fait, si tu te vois être quelque chose, okay, tu l'es. Mais la voix qui me parlait m'a dit, le problème, c'est que pour les hommes, et même pour Dieu normalement, entre le moment où tu te vois Dieu, le moment où tu es Dieu, il y a normalement un temps qu'on appelle l'attente. L'ange qui me parlait me disait, mais pour Dieu, ce temps n'existe pas parce qu'il est hors du temps. Ça veut dire que quelle que soit la vision que tu as de ta vie et de toi-même, avant qu'elle ne se réalise, il y aura un temps au milieu qui s'appelle l'attente. Et c'est exactement dans ce temps-là, dans cette portion de temps, que la plupart d'entre nous, nous changeons de vision. Nous détournons nos yeux de ce que nous voulons être et nous les fixons sur ce que nous ne voulons pas être. L'attente fait partie intégrante de la vie d'un être humain. Je sais que pour plusieurs personnes, l'attente est souvent considérée comme un fardeau, le frein à un plein épanouissement. Mais que nous le voulions ou pas, il y a des moments où si nous voulons jouir d'un certain type de résultat, nous allons devoir attendre. Il y a des choses et des situations dans la vie qui exigent que nous attendions. Par exemple, le fait de porter un enfant dans son sein. De manière générale, c'est 9 mois pour les êtres humains. Mais vouloir avoir un enfant en 4 mois, c'est réduire les chances de vie de votre enfant. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent que selon ce principe. La cuisson. Il y a des plats que vous n'obtiendrez jamais si vous ne les mettez pas au four à cuisson lente. Il y a des plats qui ne s'obtiennent jamais au micro-ondes. En fonction de ce que tu veux consommer, il y a une attente que tu dois être d'accord de supporter. Une autre chose qui exige du temps, c'est la maturité. Bien que je crois que la maturité soit une question de mentalité et non d'âge, je reste convaincu qu'un type de sagesse demande néanmoins de l'expérience, donc du temps. Les Saintes Écritures parlent au sujet de l'évêque, mais c'est vrai pour les sacrificateurs. On parle de l'évêque, mais ça s'applique à tous ceux qui veulent servir Dieu. La Bible dit, il ne faut pas que l'évêque soit un nouveau converti. Ça veut dire que l'un des critères qui distingue quelqu'un et qui le rend éligible à l'épiscopat, c'est le fait qu'il ait de l'expérience dans la foi. Donc, on ne peut pas devenir évêque après 1 an de conversion. Ou après 1 an de pastorat. Il y a des choses qu'il ne faut pas confier à un enfant, car quoi qu'étant destiné à les vivre, ce n'est pas encore le temps. Mettez Galates chapitre 4, versets 1 à 2 sur l'écran et prenez les références pour vous qui prenez des notes, pour vous qui nous suivez en ligne. Galates 4, 1 à 2. Je vais lire, vous suivez sur l'écran ou dans vos Bibles. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps, dites le temps, jusqu'au temps marqué, pas par lui, mais par le Père. Alors, je veux vous lire ce texte dans une autre version, dans plusieurs autres versions, mais il y a une version particulièrement qui m'intéresse. La version Darby dit ceci, verset 1. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tous. C'est la version français courant, la Bible en français courant qui m'intéresse et que je veux développer un peu. En d'autres mots, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps qu'un héritier est mineur, sa situation ne diffère pas de celle d'un esclave, bien que théoriquement, tout lui appartienne. C'est en lisant la version Bible en français courant et une autre version anglaise qui dit « under age » que je me suis rendu compte donc qu'au-delà de ce que vous pouvez savoir, il semble qu'il y ait une limite imposée par le temps que si vous n'avez pas atteint ou dépassé, vous ne pouvez pas rentrer en possession de certaines choses. Par exemple, dans la société dans laquelle nous vivons, il y a des choses qui sont interdites aux mineurs. Ils ont deux bras, deux pieds, une tête. Ils peuvent être même plus matures que leur âge. Mais la société s'est mise d'accord sur le fait que on ne vote pas à 16 ans. Quand bien même la personne peut être libre d'avoir accès à l'alcool et de boire, mais tu ne peux pas acheter certaines choses quand tu es mineur. C'est comme si le fait d'être mineur, écoutez-moi, c'est important, rend illégal le fait de faire certaines choses. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'a pas ton âge, qui est majeur, c'est légal. Mais pour toi, parce que tu es underage, parce que tu es mineur, c'est illégal. La légalité ne dépend donc pas de ce que tu fais ou de la chose que tu achètes, mais de l'âge que tu as. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu considère illégales de te donner. C'est en désaccord avec ses lois, avec ses principes. Dieu dit, si je donne ça à ce mineur, je vais le tuer. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des promesses dont l'accomplissement dépend de votre maturité. Pas de l'amour de Dieu pour vous, pas de la volonté de Dieu à vous bénir, mais du fait que Dieu se rende compte que vous n'avez pas l'âge. Et je ne parle plus d'un âge physique, mais je parle du fait qu'aux yeux de Dieu, il y a un temps que tu aurais dû dépasser, une maturité que tu aurais dû avoir, que tu n'as toujours pas. Et Dieu est obligé de laisser ce qui t'appartient entre les mains de quelqu'un qui n'est pas toi. Que quelqu'un dise sagesse Salomon. Ecclésiaste 10, 16. Quant au cyprès d'Alodébar, mon Dieu, mon roi. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Arrêtons-nous d'abord à ce verset. Le pays qui a à sa tête un enfant est maudit. Ça veut dire qu'il n'est pas maudit parce qu'il n'a pas de ressources. Le pays va devenir malheureux, le pays va devenir troublé, pas parce qu'il lui manque des ressources, mais parce que celui qui le conduit, qui le dirige, manque de maturité. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Malheur à toi, famille dont le chef de famille est un enfant. Malheur à toi, église dont le leader est un enfant. Malheur à toi, entreprise dont le premier responsable est un enfant. Malheur à toi, enfant dont la mère est un enfant. Être un enfant n'est pas le problème, c'est être un enfant en position de leadership. Ça veut dire que le leadership t'interdit d'être un enfant. Tu ne peux pas vouloir être un leader et rester enfant. Tu dois faire un choix. Soit tu es un leader, soit tu es un enfant. Mais tu ne peux pas être les deux. Les deux ne sont pas compatibles. L'immaturité à la tête d'une entreprise, d'une famille, d'une église, d'un pays produit le malheur. Je vais essayer de dire ça dans l'autre sens. Et si Dieu n'était pas ton problème, et si les démons n'étaient pas ton problème, et si les sorciers n'étaient pas ton problème, et si c'était ton manque de maturité? Je suis dérangé par les Saintes Écritures lorsque la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et que l'insensé la renverse de ses propres mains. J'ai été profondément dérangé parce que je me suis rendu compte que pour renverser quelque chose, il faut d'abord au préalable l'avoir bâti, puisqu'on parle de sa maison. Ça veut dire que c'est possible de passer de la sagesse à la folie. Qu'être sage n'est pas une garantie dans le temps. Quelqu'un peut être sage aujourd'hui et fou demain. Et si la sagesse pour bâtir demande du temps, si bâtir demande du temps, parce que tu peux être sage, mais le fruit de ta sagesse se voit dans le temps, le fruit de la folie est instantané. Vous m'entendez? Tu es sage pendant 10 ans, tu es folle un jour peuvent détruire 10 ans. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent quand? Dès le matin. Manger n'est pas le problème, c'est que si la première chose que tu fais quand tu te lèves, c'est manger. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous voyez l'image? Où les gens qui sont supposés diriger le pays ne cherchent pas quand ils se réveillent à avoir les nouvelles de la nation qu'ils gèrent. La première question qu'ils posent, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Où est mon petit déjeuner? Mettez le verset 17, s'il vous plaît. 1, 2, 3, lisons. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force. Les gens qui sont sous ton leadership sont heureux lorsque tu sais quand il faut manger et quand il ne faut pas manger. Les gens qui sont sous ton leadership sont heureux si la priorité quand tu manges, ce n'est pas de manger et de boire pour t'enivrer, mais de manger pour avoir des forces. Ça veut dire que le leadership vient avec des restrictions qui ne sont pas sur les enfants. C'est malheureux de voir un parent manger pendant que ses enfants meurent de faim. C'est malheureux de voir un chef d'entreprise se payer avant ses employés. C'est malheureux, pas pour lui, parce qu'il ne le vit pas tout de suite, mais ceux qui souffrent en premier, c'est ceux qui sont sous ce type de leadership. Regarde la personne qui est à côté de toi, demande-lui quel type de leader es-tu? Quel type de parent es-tu? Quel type d'aîné es-tu? Quel type de chef d'entreprise es-tu? Quel type de prince es-tu? Quel type de roi es-tu? Prions 30 secondes, demandons à Dieu la sagesse. Demande à Dieu de t'aider à rester sage dans le temps. Demande à Dieu de t'aider à rester sage dans le temps. Que tu ne te réveilles pas un matin et que tu détruises ce que tu t'es tué à bâtir pendant toutes ces années à cause d'un esprit de folie. C'est-à-dire, tu as supporté les injustices pendant longtemps et puis un jour, la gourde d'eau qui n'aurait, le vase qui n'aurait jamais dû être plein est plein. Et une goutte d'eau est capable de t'emmener à dire des choses que tu ne pourras jamais rattraper. Je m'adresse à des leaders, je m'adresse à des rois et des reines, je m'adresse à des princes et des princesses. Que Dieu te délivre des enfantillages. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Si dans ces situations, l'attente est une nécessité, je veux que vous notiez que nous pouvons néanmoins décider de quelle manière nous attendons. Je vais vous lire une citation de Joyce Meyer. Elle dit, et je cite, la patience n'est pas simplement la capacité d'attendre. c'est la façon dont nous nous comportons pendant que nous attendons. Fin de citation. L'attente n'est donc plus le problème. Ce qu'il est, c'est notre attitude pendant que nous attendons. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre vous dites que vous êtes patient, et c'est faux. Vous n'êtes pas patient parce que vous attendez. Votre patience se démontre dans l'attitude ou le comportement que vous adoptez pendant que vous attendez. Un enfant de quelques années demande à sa mère un bonbon. Maman, je veux le bonbon. Maman dit à l'enfant, attends, je termine ce que je fais, je te le donne. L'enfant, dans sa tête, attendre, en fonction de l'enfant, c'est une minute. 60 secondes plus tard, l'enfant revient pour te dire, maman, je veux le bonbon. Tu as dit d'attendre, j'ai attendu. Maman dit, j'ai pas fini ce que je suis en train de faire. Mon fils, attends. J'attends combien de temps? Mon fils, donne-moi 3 minutes, je termine. Sauf que 3 minutes pour un enfant, c'est pas comme 3 minutes pour un adulte. Et donc, pendant que la mère est en train de faire ce qu'elle fait, qui est important, l'enfant peut considérer que si maman m'aimait vraiment, elle m'aurait donné le bonbon au moment où je le lui ai demandé, et que l'attente est une punition. Qui a déjà attendu dans sa vie? Qui reconnaît que tu as déjà mal attendu? Ce soir, le cœur de mon message va être de répondre à cette question. Je sais sans l'ombre d'un doute que Dieu va te parler. C'est-à-dire que je suis convaincu à 2000% que ce soir, Dieu va répondre à tes questions. Voilà la question à laquelle je veux répondre et qui va me prendre les 50 minutes restantes. Pourquoi est-ce que Dieu peut vouloir que nous attendions? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu peut vouloir te faire attendre? Je crois, et ce de manière claire, que l'attente a des bienfaits qui lui sont propres, des bienfaits que l'exaucement instantané ne peut pas donner. En d'autres termes, Dieu veut que tu développes certaines choses que tu ne développeras jamais s'il t'exauce instantanément. Si à chaque fois que tu pries, Dieu exauce la seconde d'après, il y a des choses que tu n'auras jamais. Parce que Dieu veut te les donner, il te fait attendre. L'attente, premièrement, révèle nos vraies motivations. Très souvent, notre attitude durant l'attente nous permet de vraiment voir pourquoi nous voulons ce que nous attendons. Attendre le mariage, attendre un enfant, attendre une promotion ou un travail peut mettre à nu dans le temps les véritables motivations qui sont les nôtres. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas de tes motivations si Dieu ne te plonge pas dans l'attente. Vous connaissez l'histoire d'Eliab, le grand frère de David. Samuel arrive avec la corne remplie d'huile, une corne sacrée, une huile sainte. Si cette huile touche la tête d'Eliab, c'est fini, les rois. Et au moment où Samuel voit Eliab, Samuel le prophète, Samuel celui dont la Bible parle en disant qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre, Samuel qui a grandi dans la maison de Dieu, Samuel qui a dormi à côté de l'arche, Samuel. La Bible dit que Samuel va le voir et malgré son âge et son expérience de vie, Samuel va se dire dans son cœur, certainement voici le prochain roi. Au moment où Samuel pense ces choses et est prêt à tendre la main pour oindre Eliab,
Dieu l'arrête et dit, non, ne prends pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à ceux qui frappent, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. C'est plus tard, alors qu'Éliab est sur le champ de bataille et que son petit frère arrive lui apporter à manger, que je comprends pourquoi Dieu a refusé qu'on l'éloigne. Parce que dans le cœur d'Éliab, il y a la jalousie. Mais ça ne se voit pas. Éliab est beau, Éliab est costaud, Éliab a exactement les bons attributs, la bonne attitude. Sauf que Dieu connaît le cœur. Écoute-moi bien, le temps, l'attente permet de révéler ton cœur et celui des autres. Il y a des gens avec lesquels tu voulais être. Dieu t'a sauvé la vie en te faisant attendre. Il y a des choses que tu voulais avoir. Dieu t'a protégé en te mettant dans le temps. Imagine ce que tu serais si Dieu avait exaucé la prière que tu as faite sur ce jeune homme. Imagine où tu serais si Dieu avait exaucé la prière que tu as faite sur cette jeune femme. Imagine où tu serais si Dieu t'avait fait voyager comme tu voulais. Imagine quelle mère tu serais si tu avais eu l'enfant quand tu voulais l'avoir. Le temps a révélé que tu n'étais pas prête. Mais le temps a révélé tes motivations. Voici ce que j'ai écrit. Si Dieu ne vit pas dans le temps, il travaille néanmoins avec le temps. Si Dieu est hors du temps, il nous garde dans le temps pour notre bien. Que quelqu'un dise, Seigneur, merci pour le temps. La deuxième chose que l'attente fait, l'attente provoque l'examen de nos priorités. En attendant l'accomplissement, la manifestation d'une promesse de Dieu, nous sommes très souvent amenés à revoir nos priorités. L'attente nous oblige à nous poser des questions. Est-ce que vous vous souvenez de la période du Covid? La période du Covid nous a, en tout cas je l'espère, tous conduit à réévaluer nos priorités. Moi, j'ai découvert pendant la Covid que je n'avais pas d'argent. J'ai découvert pendant la Covid que j'avais des fidèles qui ne comprenaient pas le principe de la dîme. J'ai découvert pendant la Covid qu'on n'était pas vraiment libre. J'ai découvert pendant la Covid que le salariat est un leurre, une illusion. Que ceux qui s'en sont sortis dans leur entreprise sans être le propriétaire ou le PDG, ce sont des gens qui avaient une valeur ajoutée. Il y a des gens qu'on n'a pas licenciés. Il y en a d'autres, on les a salués, on a dit merci. Sans promesse d'un retour. Mais il y a des gens, même s'ils voulaient partir, on les aurait gardés. Parce que dans le système, ils avaient trop de valeur. Vous m'entendez ou vous m'entendez? Ecclésiaste 7, 14. Ecclésiaste 7, 14. Est-ce que j'aide quelqu'un ce soir? Lisons ensemble Ecclésiaste 7, 14, 1, 2, 3. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Plusieurs choses au sujet de ce texte qui sont très difficiles, compliquées, complexes, mais certaines sur lesquelles je veux attirer votre attention. Premièrement, la deuxième partie du verset dit que Dieu a fait le jour du bonheur et le jour du malheur pour que l'homme ne découvre en rien ce qui vient après. Écoutez-moi bien, ça veut dire que le bonheur et le malheur aveuglent. Ça veut dire que quand tu es dans un moment de joie, tes yeux sont obscurcis quant au futur. Et quand tu es dans un moment de malheur, tu deviens aveugle à l'avenir. Tu ne vois que ta souffrance. Tu as l'impression que tu vas mourir là. Est-ce que vous avez traversé des situations que vous pensiez ne pas traverser? C'est-à-dire, tu avais le sentiment que c'est ta fin. Et puis, par la grâce de Dieu, tu es toujours là. Regarde quelqu'un, dis-lui, respecte-moi, je suis un survivant. Il y a des choses qui auraient pu me tuer, mais je suis toujours là. Elle dit, moi-même, j'avais déjà écrit le message que c'est fini, oh, vous allez me chercher dans la tombe, mais je suis toujours là. Que les survivants fassent du bruit dans cette maison. Mon Dieu, mon roi. Tu as perdu cette affaire, tu as perdu ton investissement, mais tu es toujours là. Tu as perdu cette relation, mais tu es toujours là. Tu as perdu ce parent, mais tu es toujours là. Tu ne voyais pas comment tu allais vivre sans lui, mais gloire à Dieu, il n'est pas Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu respires sans elle, tu respires sans lui. Quelqu'un t'avait dit, on va voir où tu iras sans moi. Aujourd'hui, il faut lui dire, regarde où je suis sans toi.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.